France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Une série sur la négociation cette semaine. L'actualité y est évidemment pour quelque chose, en pleine tension commerciale et diplomatique. Mais commençons par un épisode sur les négociations en cas de prise d'otage. Que faut-il faire? Que faut-il dire? Ce sont ces questions vertigineuses que les forces de l'ordre ont en tête lors d'une prise d'otage. Que celles-ci s'inscrivent dans un braquage, dans une tentative d'évasion d'une prison ou dans une attaque de nature politique avec acte terroriste. D'abord, la parole. Tous ceux qui ont réfléchi à ce sujet le disent. Il faut établir avec les preneurs d'otages un contact par le langage et gagner du temps. Mais jusqu'où la parole est-elle efficace? Peut-elle vraiment produire une négociation avec de part et d'autre des gagnants? Ou bien s'agit-il avant tout de le faire croire aux preneurs d'otages pour qu'ils ne tuent personne et se rendent en croyant qu'ils seront traités avec clémence ou du moins en ayant l'impression, la fatigue aidant, de n'avoir pas d'autre issue? Y a-t-il des cas, par exemple, lorsqu'on a affaire à des terroristes, où la négociation est une illusion? Car lorsque les preneurs d'otages ne craignent pas la mort, ni celle de leurs otages, ni la leur, que reste-t-il à négocier? Cela dit, on ne sait souvent qu'après avoir tenté. Pour en discuter, voici une philosophe et un ex-commandant du RAID. Bonjour Hélène Leuillet.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes maître de conférences émérite de philosophie de la Sorbonne et psychanalyste. Votre thèse de doctorat en philo, je le précise, portait sur la police et a donné lieu à un ouvrage chez Fayard. Vous avez aussi réfléchi au terrorisme et à la haine. Votre bibliographie est précisée sur notre site. Et bonjour Christophe Coppen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ex-commandant au RAID. Vous avez occupé pendant 12 ans la fonction de chef du groupe gestion de crise et négociation. Vous avez été actif dans plus de 350 opérations du RAID, impliquant des prises d'otages, des kidnappings, des actions de forcenés susceptibles de faire beaucoup de victimes. Vous avez publié en 2010 aux éditions du Cherche Midi un témoignage intitulé « Négociateur au RAID ». Alors je vous propose de commencer notre réflexion en revenant à un événement, un braquage de banque en 1973 en Suède, qui a conduit à forger la notion de syndrome de Stockholm.
Et puis à Stockholm, le tragique suspense dure toujours.
Cela fait maintenant 36 heures que le jeune bandit armé est retranché dans une banque du centre de la ville avec 4 otages. Grâce à des pilules stimulantes, il réussit à ne pas dormir. Hier, il avait obligé le gouvernement suédois à libérer un autre bandit, condamné lui à la prison à vie pour des attaques à main armée. Ce dernier est venu rejoindre son camarade dans la banque, ce qui ne facilitera certainement pas la tâche des policiers qui pensaient avoir le jeune Robert Hansen à l'usure. Depuis qu'ils sont ensemble, les deux bandits ont donné des interviews à la presse par téléphone. Ils ont notamment protesté contre les conditions de vie dans les prisons suédoises.
C'était une archive de France Inter, un journal de 22 heures du 24 août 1973 qui racontait donc cette prise d'otage lors d'un braquage de banque à Stockholm. Et c'est plus tard que Nils Bejerot, je ne sais pas du tout comment on prononce, Hélène Leuillet, a forgé à partir de là le syndrome de Stockholm. Vous êtes revenu là-dessus quand nous préparions cette émission, c'est très important. C'est sans doute à prendre en compte dans les prise d'otage. Je voudrais vous entendre, notamment sur le braquage originel qui a donné lieu à cette notion.
Oui, il est intéressant parce qu'on peut voir à quel point, précisément avec des négociations comme celle du RAID, on a fait du chemin par rapport à cette situation de 1973, où on voit bien que les techniques et l'éthique même de la négociation étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui dans une situation telle que celle-ci. Or, il est vrai qu'il y avait quelque chose d'inédit dans la longueur de la prise d'otage, c'est-à-dire que le syndrome de Stockholm, vous avez raison, il a fait l'objet de cette dénomination ex post. Mais Nils Bejerot, je ne sais pas mieux le présenter, le prononcer que vous, était le psychiatre de la police sur les lieux. C'est-à-dire que immédiatement, il a dit, il faut s'attendre à ce que les otages nouent un lien avec les preneurs d'otages.
Ça n'a pas raté. Hein,
et ça n'a pas raté.
Elle est même tombée amoureuse, l'une des otages plus tard de l'un de ses agresseurs. Il y a tout de suite eu un lien très fort entre eux.
Le complice, oui. Oui, il y a eu un lien qui s'est noué. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. D'une part, le fait, comme je le disais, que la police n'a pas été très habile. Enfin, quand on lit vraiment aujourd'hui le témoignage, l'enquête qu'en a donné le journaliste Daniel Lang, par laquelle on connaît cette histoire un petit peu précisément, on voit très bien que la police n'a pas été fiable. Elle a dit qu'elle n'intervenait pas et puis elle a essayé à plusieurs reprises de le piéger. Et donc là, et puis que le Premier ministre Olof Palme avait une position très intransigeante, en période électorale, etc. Il ne voulait absolument pas entendre parler de négociations. Donc dès lors, les otages ont eu le sentiment que leur vie était plutôt sauvegardée en quelque sorte par les preneurs d'otages. Il y a deux autres choses. D'une part, c'est une attaque de banque, c'est-à-dire qu'il est question de l'argent. Et vous savez bien que cette prise d'otage de Stockholm a donné lieu à la grande série espagnole à succès, La Casa de Papel, qui est en quelque sorte un remake en plus grand de cette prise d'otage de Stockholm. Et on voit bien là dans cette série à quel point, quand il est question d'argent, la population se dit, après tout, ils veulent prendre un petit peu d'argent, c'est pas si grave. C'est pas du tout la même chose quand on a affaire à un terroriste ou à un forcené, où bien sûr là il s'agit de la vie. Et puis enfin, troisièmement, je dirais tout simplement, il faut bien parler à quelqu'un. Et quand on est 6 jours avec quelqu'un, c'est avec cette personne que se nouent les petites conversations de la vie quotidienne. On reviendra peut-être au rapport conversation-négociation, qui sont à la fois très différentes,
très importantes,
très différentes, très opposées, et qui en même temps sont attachées l'une à l'autre, telle sorte qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et donc on voit très bien que là, finalement, ils se parlent.
Christophe Coppen, je voudrais votre analyse de quelqu'un qui a été sur le terrain. Je crois que vous avez rencontré des cas où il y a eu ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm, des otages qui avaient de l'affection pour ceux qui les prenaient en otage. Je vous écoute.
Alors déjà, pour compléter, en effet, sur le syndrome de Stockholm, on a 3 paramètres qui sont indiscutables, en fait, pour arriver à le matérialiser, ce syndrome. C'est une sympathie, en quelque sorte, de l'otage vis-à-vis de son preneur d'otage, parce que justement, il ne sent plus le danger de ce dernier. Et là, à ce moment-là, ça devient un petit peu un père de substitution qui autorise à aller se laver, qui autorise à manger, etc., qui autorise à bouger. Et réciproquement, étant donné que on lui renvoie une bonne image, le preneur d'otage a de la sympathie réciproque également à l'égard de son otage, parce qu'au bout d'un moment, et c'est très intéressant pour les forces de l'ordre, eh bien, il ne se sent plus le courage, en fait, ou tout du moins la légitimité pour pouvoir passer à l'acte contre lui. Mais pour arriver, en fait, à sortir de cette espèce de nœud gordien qu'ils ont, eh bien, il faut être à ce moment-là en opposition vis-à-vis de l'État et de la police. Parce qu'il faut donner du sens au fait qu'on est encore enfermé, alors qu'il suffirait, au fond, d'amener une voiture, que tout le monde parte avec, qu'on soit libéré plus tard, etc. Et donc, c'est quand il y a cette double sympathie d'une part, et ensuite cette antipathie majeure à l'égard des forces de l'ordre, eh bien, que là, à ce moment-là, le syndrome de Stockholm est constitué. Et c'est vrai que, petite confidence, nous autres policiers, on aime bien, en fait, essayer de provoquer ce syndrome de Stockholm.
Ah, ça vous arrange,
vous voyez,
en fait.
Ben oui, par exemple, si on doit fournir de la nourriture, on va essayer pas forcément de fournir de la nourriture déjà constituée, des sandwichs déjà constitués. On va amener de quoi se faire des sandwichs. C'est-à-dire pour qu'il y ait une proximité, une relation, en fait, avec les otages. Et vous le disiez, donc oui, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion, en fait, d'avoir des syndromes de Stockholm caractérisés. Toute première, en fait, prise d'otage que j'ai eu à traiter, qui était à Seine-Port, c'est une petite ville en Seine-et-Marne, eh bien, une demoiselle de 16 ans avait été prise en otage par son ex-petit copain de 28 ans, et il voulait faire sauter la maison, mais avec les parents, en faisant venir les parents sur place, pour les punir, en fait, d'avoir provoqué, justement, la rupture entre eux. Et il avait des problèmes de santé très, très importants, donc il était suicidaire. Et la jeune fille, qui était attachée à un radiateur à l'étage, eh bien, en pleine nuit, désignait à son preneur d'otage, en fait, l'endroit où se positionnaient nos hommes, à travers les buissons, en fait, qui couraient autour du pavillon. Et ça a été particulièrement déstabilisant, en fait, pour le chef opérationnel du moment, qui s'est dit, mais à quoi joue-t-elle? N'est-elle pas complice au fond? Est-ce que l'on ne se laisse pas abuser par cette situation? Et c'était ma première rencontre avec un vrai syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, cette nécessité pour l'otage, au fond, de se faire bien voir par l'auteur, l'amène à collaborer.
Et pourquoi est-ce finalement une bonne chose pour vous? Une patte avec laquelle on peut bien travailler. On pourrait croire, au contraire, comme vous venez de le suggérer, que ce n'est pas très facile pour les forces de l'ordre, parce que les otages eux-mêmes s'opposent à elles. D'ailleurs, certains ont dit qu'on parle peut-être un peu vite de syndrome de Stockholm avec toute cette élaboration. Ils ont juste peur d'une intervention qui risque de leur coûter la vie à eux, et ils sont du côté de leurs agresseurs pour éviter cette situation d'assaut où ils risqueraient eux aussi de perdre la vie. Certains l'ont dit à propos de l'affaire de Stockholm de 73.
Nous, ce que nous redoutons, en fait, c'est que l'otage soit dépersonnalisé et que par là même, n'étant plus humain aux yeux de son agresseur, eh bien, à ce moment-là, le passage à l'acte soit facilité. Parce qu'au fond, quand on a du respect pour quelqu'un et quand on a un tout petit peu voilà, de relation créée avec la personne, puisqu'on a en charge, quand on est preneur d'otage, on a en charge son otage, normalement. Donc on en prend soin, il a une certaine valeur. Okay,
donc ça, c'est très utile. Et donc, pour nous,
on sait que ça va être un frein au passage à l'acte.
C'est ça. Ouais.
Voilà, donc vous savez que c'est la porte ouverte à la négociation, oui, à la parole, oui. À l'assaut, ça le recule, l'assaut, et peut-être que ce n'est pas plus mal. J'ai cru comprendre en préparant cette émission, avec vos propres écrits, que 80% des affaires du RAID, où le RAID est sollicité, se soldent non pas par un assaut, mais par une négociation.
Alors, ce sont des chiffres que j'ai réussi à établir, en fait, avec une base de données criminologique que nous avons créée à dessein. Aujourd'hui, le chiffre n'est plus le même. Même si la négociation continue à être particulièrement efficace, mais devant l'essor en fait de toute la criminalité, on va dire débridée que nous connaissons aujourd'hui dans les banlieues, notamment sur les règlements de compte en matière de stupéfiants et autres, et puis devant l'activité extrêmement violente du terrorisme, les forces de l'ordre interviennent beaucoup plus vite. Donc on laisse un peu moins de place à la négociation. Pourquoi ? Parce qu'on veut fermer la fenêtre médiatique, en quelque sorte, aux malfaiteurs, et notamment aux terroristes, qui peut faire du prosélytisme si jamais on lui laisse communiquer beaucoup avec l'extérieur.
Et vous le déplorez, ça ? Vous qui avez formé tellement de négociateurs, vous déplorez le fait que on passe à l'assaut, venez-vous de dire, plus rapidement aujourd'hui ?
La vocation pour les négociateurs, c'est d'être au service de la résolution de la crise, quelle que soit, au fond, la méthode, en quelque sorte. Donc, si les autorités, puisqu'elles sont souveraines, en quelque sorte, si les autorités veulent que nous négocions jusqu'au bout, nous avons les outils techniques pour pouvoir le faire. Si, en revanche, il y a des actions d'opportunité, notamment d'interpellation ou de neutralisation, je pense que... vu la dangerosité qu'il y a aujourd'hui, c'est peut-être une solution aussi qui est dans notre prisme, dans notre équation.
Oui, je pense que vous soulevez tous deux aussi une question qui concerne les doctrines policières, la politique de la police, si je puis dire, parce que on peut peut-être rappeler quand même la naissance du RAID en 1985, hein, dans un moment de la conception des activités de police qui vont dans le sens de ce qu'on appelle, on rappelle aujourd'hui, la pacification des mœurs. Hein, c'est sous Pierre Joxe, sous la présidence de François Mitterrand, qui est aussi le moment où, quelques années plus tard, a été créé l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, qui a existé jusqu'en 2004. Donc là, il y avait vraiment cette idée que dans la police, on allait essayer de faire en sorte, au maximum, de négocier par la parole, de faire tomber la tension, parce que qu'est-ce qu'une situation de crise ? C'est une situation d'intense tension. Hein, c'est la différence, c'est que vous allez parler de la diplomatie ensuite. Là, normalement, en démocratie, on se met autour d'une table. Hein, voilà quelque chose qui est entre nous. Situation de crise, il n'y a pas de table. Hein, il y a un forcené qui a souvent des otages. Et donc, cette idée que c'est raté quand il y a des morts, c'est plus réussi quand tout le monde est, quand tout le monde est vivant. Ça, c'était vraiment cette période-là de la création de la police, de la création de cette force d'intervention de la police qui est le RAID en 1985. Voilà, alors, je voulais rappeler que ça,
c'est très important.
Y a l'idée de la police là-dedans.
Et une fois de plus, on entend que vous voulez rompre, si je vous ai bien comprise, avec une attitude qui était précisément celle du Premier ministre Olof Palme dans l'affaire de Stockholm en 73, et c'est parce que lui voulait l'assaut, enfin il n'y avait pas besoin de tergiverser, en tout cas c'est ce qu'on a cru comprendre. Il faut dire que l'une des otages à l'époque, Christine Henmark, l'a appelé pour lui demander de ne pas le faire, et ça a été, semble-t-il, un long dialogue de sourds de 42 minutes. Il se trouve que la police a enregistré cet appel, vous le savez, c'est vous qui nous l'avez raconté, merci Hélène Leuillet. Et notre équipe s'est amusée, mais c'est aussi un jeu très sérieux, à incarner, à lire un extrait où on entend l'otage Carla Michel et le Premier ministre suédois Nicolas Berger. Écoutez.
Je suis très déçue. J'ai l'impression que vous jonglez avec nos vies. J'ai entièrement confiance en Clark et en Olson. Je ne suis pas désespérée. Et ils ne nous ont fait aucun mal. Au contraire, ils se sont montrés très gentils. Mais vous savez, Olof, ce dont j'ai peur, c'est que la police donne l'assaut et mette nos vies en péril.
La police n'en fera rien.
Je veux que vous nous laissiez partir avec le braqueur. Donnez-leur les devises et les deux armes et laissez-nous partir.
Mais c'est impossible. Prenez la pleine mesure de la situation. Ils ont braqué une banque et tiré sur la police.
La police aurait tiré la première.
Aucune importance. Un brave homme a été touché. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie.
Qu'est-ce qui est le plus grave, qu'il soit blessé ou que 6 personnes meurent ?
Tant que le braqueur ne dégaine pas son arme, personne ne le tuera. Ne pouvez-vous pas lui dire de vous laisser partir ?
Ils n'en feront rien et je n'ai pas du tout peur de lui.
On ne vous laissera pas prendre la route.
Mais, cher Olof... Ne comprenez-vous pas que nous commençons tous à être à bout ici ? Je dis bien tous. Je veux m'en aller avec eux.
Vous seriez alors d'autant plus en danger ?
Non. Enregistrez-moi si vous le souhaitez et vous pourrez m'entendre le répéter encore et encore. Je veux partir avec le braqueur. Et ni vous ni personne n'en serez tenu pour responsable. Je l'ai dit à la radio aujourd'hui, toute la Suède sait que nous voulons partir avec Clark et Olson.
Je suis en compagnie d'Hélène Leuillet et de Christophe Coppen. Hélène Leuillet, philosophe, Christophe Coppen, ex-commandant du RAID. Nous parlons des prises d'otages. Et là, vraiment, j'ai envie de vous entendre, Christophe Coppen, ce Premier ministre suédois, très ferme. Est-il l'antimodèle, désormais, pour les bons négociateurs du RAID, qui écoutent davantage, non seulement les preneurs d'otages, mais aussi les otages ?
Alors la négociation n'existait pas à cette époque à Stockholm. Il a fallu en quelque sorte qu'il y ait une action initiale qui était Munich avec l'énorme prise d'otage aux Jeux Olympiques pour se rendre compte qu'il fallait structurer en quelque sorte des forces d'intervention. Et le NYPD, en revanche, donc la police américaine à New York, a compris très rapidement qu'il y avait une voie très intéressante en fait pour pouvoir désamorcer des situations de crise. Et ils ont commencé donc à créer avec le HNT, donc Hostage Negotiation Team, un premier cours en quelque sorte de négociateur qui a eu un énorme succès, et en fait tous les chefs de groupe négo nous passons tous en quelque sorte une première fois pour rencontrer les Américains et voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui à la Crisis Negotiation Unit, c'est un petit peu le pendant là-dessus. Donc pas de négociateurs à cette époque-là. Ensuite, on a eu Stockholm en 73, et là, à ce moment-là, on se dit la psychologie doit rentrer en fait dans notre équation de travail. Et à partir de 85, donc la création du RAID, on a très tardivement, en 95.
Oui.
Après qu'il y ait eu la prise d'otage de Neuilly, où là encore, on n'avait pas de négociateur, c'était les autorités qui négociaient à l'époque. Eh bien, on a eu un collègue qui s'est dit « je vais prendre en main cette chose-là, ce principe-là, cette technique-là, je vais aller voir ce que font les Américains, je vais essayer de ramener ça en France » et avec beaucoup d'ailleurs de clairvoyance, puisque c'est grâce à ça, en fait, cette première initiative. Mais je reviens sur le fait que les autorités sont dans quelque chose qui est terrible. C'est ce que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire le fait que quand on a commencé à travailler un petit peu un modèle, que l'on a des connaissances, eh bien, on se sent expert. Tout simplement parce que la parole, au fond, la parole, elle nous est donnée à tous. Elle nous est donnée comme premier outil pour pouvoir expliquer, convaincre, etc., oui. Rassurer. Et donc, chacun s'autorise au fond ou se croit expert en la matière. Et pendant très longtemps, eh bien, on donnait la responsabilité à des chefs de service, commissaires de police, qui étaient censés être plus intelligents que les autres, eh bien, la responsabilité de ça. Mais non. La négociation, en fait, on le sait aujourd'hui, et j'ai créé un bac plus 5 reconnu au répertoire national de certification professionnelle, donc un véritable métier de négociateur, c'est un ensemble de méthodes, de techniques, qui vont faire que, petit à petit, nous avançons, nous progressons tout doucement, en fait, vers une résolution pacifique. Donc, il n'est plus question de bien parler, mais bien d'écouter, au démarrage.
Est-ce que, pour illustrer cela, vous pourriez nous raconter la prise d'otage à Compiègne en 2008? Vous en parlez souvent, vous la trouvez, je crois, exemplaire de ce qu'on peut faire par la parole avec un preneur d'otage.
Alors cette prise d'otage, c'était un homme qui était séparé de son épouse, qui donc avait pris en otage sa petite fille, et il menaçait de la tuer, créant une situation de culpabilité et de douleur à perpétuité sur son épouse, bien évidemment. Et nous étions dans une impasse parce que le pavillon, alors ça c'est de nuit bien sûr, et le pavillon était particulièrement donc difficile d'accès avec une énorme baie vitrée en bas, avec un rideau donc qui fermait tout ça, et les négociations se passaient à l'étage par le vasistas qui était ouvert, et on avait donc mis des projecteurs très puissants pour pouvoir éclairer ce qui donc l'éblouissait et l'agaçait profondément. Et la situation était véritablement verrouillée parce qu'il ne voulait pas négocier avec nous, il voulait négocier avec son épouse.
Oui.
Il voulait régler ses comptes avec elle et peut-être passer à l'acte à ce moment-là, en fait, justement, sur sa faute.
Et vous étiez ce qu'on appelle la voix ou vous étiez le conseiller ?
J'étais la voix, et la voix, c'est-à-dire c'est celui, en fait, qui est en contact avec l'individu, oui. Les autres négociateurs et le psychologue sont là pour travailler sur le fond, en quelque sorte.
Et vous conseillez un peu en restant non impliqué.
Légèrement en retrait, éventuellement, donc par contact.
Et que lui avez-vous dit alors à ce preneur d'otage ?
Alors, c'est d'abord l'écoute sur ce qui l'amène à ce passage à l'acte. Parce que, vous voyez, la pire des erreurs serait d'essayer de le convaincre tout de suite de poser sa arme et de libérer son otage. Mais ça n'a aucun sens. Pour lui, c'est le jour J.
Donc,
pour lui, c'est la nécessité, c'est une impasse d'abord, et la nécessité de pouvoir donc aller au bout de cette folie. Donc l'écoute est très importante. Marie-Vous disait bien écouter, c'est déjà presque résoudre l'affaire.
Mais il faut qu'il parle pour qu'on écoute. Donc, il parlait.
Et donc on l'amène à parler, on pose des questions ouvertes, on a tout un tas de techniques à ce niveau-là, et donc on va essayer de disséquer qu'est-ce qu'il y a comme besoin réel derrière soit les demandes qu'il nous fait, soit les impasses qu'il essaye de provoquer. Ce qu'on redoute toujours, c'est qu'il y ait en fait un renversement de la culpabilité, le policier ne donne pas ce que le preneur d'otage demande, et à ce moment-là, par sanction, il sanctionne l'otage. Donc c'est juste ça que nous avons en tête toujours, c'est-à-dire le transfert de responsabilité de l'un à l'autre.
Et vous avez dit un moment, j'avance parce que c'est quand même, on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Il y a eu un moment très important où vous lui avez parlé de sa petite fille en lui disant « Elle est très belle ta pitchoune ».
Oui, on avait ouvert en force le rideau pour pouvoir être en capacité d'intervenir, ce qui l'avait mis dans un état de colère redoutable. Et donc, il était descendu de l'étage avec sa petite fille et il était face donc avec les forces de l'ordre, casqués, etc., tenues balistiques et moi. Et là, à ce moment-là, eh bien, sa petite était sur ses genoux. Et elle était, il était assis, et elle était toute calme. Et donc, on utilise parfois l'humour.
Et donc ça l'a complètement désarmé, si et, je puis dire, y
et
compris émotionnellement.
Oui, en effet, ta petite fille, là, elle te ressemble pas trop quand même, hein, vu ton état d'excitation, elle non, particulièrement calme, voilà. Et donc ça l'a fait marrer. Et puis à partir de là, je lui ai dit, tu sais, tu me laisses depuis longtemps en fait dans le froid. Moi, j'aurais bien pris un café, on aurait bien continué comme ça ensemble. C'était pas grand-chose, mais c'était de circonstances.
Et il s'est rendu.
Et il s'est rendu au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on lui laisse le temps, parce que c'est sa décision à lui. Il faut bien comprendre que la résignation, c'est toujours la vitesse du preneur d'otage. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, va l'habiller, quand tu es prêt, tu ressors, etc. Et puis, on va continuer à discuter ensemble dehors. Voilà.
Hélène Leuillet, votre commentaire. Alors, de psychanalyste et de spécialiste de la police,
évidemment,
philosophe.
Il y a beaucoup de choses qui me viennent. Peut-être la première, je rebondirai sur ce que vous avez dit, à savoir, il voulait régler ses comptes avec son ex-femme. Et que la négociation, ça se fait soit à deux, mais auquel cas c'est la guerre et on n'en sort pas, soit à trois. Et voilà pourquoi il y a quand même en général quelqu'un pour appeler les flics, comme dit Egon Bittner, c'est-à-dire appeler le tiers institutionnel. C'est-à-dire pour qu'il y ait une chance que la négociation aboutisse, se dénoue, il faut sortir du duel. Hein, il faut sortir de la situation à deux, qui soit la situation perverse, vous savez, de celui qui vous dit avec un clin d'œil, bon, ben, ça peut se négocier, ça c'est la situation perverse, on vend son âme au diable, hein, c'est faux, c'est le pacte faustien. Ou bien c'est la situation tout simplement de la plus grande violence, c'est-à-dire qu'on dit qu'on négocie, en fait on négocie rien, c'est une façon de faire rebondir les hostilités. Quand la négociation a une chance d'aboutir, c'est qu'il y a un tiers qui vient là, en quelque sorte, réunir et opposer. Et voilà pourquoi, dans ce cas, c'est le pouvoir de la parole provient effectivement de l'écoute. C'est-à-dire que quand on dit le pouvoir de la parole, c'est moins la persuasion, les techniques de persuasion ou les techniques même de communication. Parce que vous voyez, dans ce que vous dites aussi, ça m'a frappé. Dans les techniques de communication, bah, on est dans quelque chose justement de binaire, le locuteur, le récepteur. Alors que, bah, voilà, quand on est dans une situation de crise, qui est donc une situation où tout peut basculer d'une seconde à l'autre, où on ne sait jamais si le silence qu'on l'a laissé ou bien la parole qu'on a dite ne va pas faire basculer la situation, il faut tenir compte déjà de l'identification de la demande. Ce n'est pas évident. Quand quelqu'un dit « je veux ça », qu'est-ce qu'il veut en fait ? Et donc là, voilà, le négociateur, vous l'avez bien dit, il est en train d'essayer de décrypter à quoi ai-je affaire ? À qui ai-je affaire ? Que veut-il vraiment ? Tenir compte aussi de toujours des effets de ce qu'on, de ce qu'on dit. C'est-à-dire que la situation de négociation en temps de crise, elle a peut-être cette spécificité par rapport à d'autres situations de négociation, comme le commerce ou la diplomatie, qu'on n'a pas le temps de calculer, en fait. C'est une situation de vérité.
Et puis, il y a un problème que tous les deux vous soulevez dans vos écrits, c'est que, mine de rien, la voix, puisqu'on dit celui qui parle, la voix, dans les forces de l'ordre, il est impliqué, y compris émotionnellement, à un moment donné. Et donc, il est très important d'être plusieurs. Mais pourquoi exactement ? Que font les autres ? Christophe Coppen, notamment, vous dites que celui qui commande de l'extérieur de la négociation ne peut pas être celui qui négocie, c'est-à-dire la voix. Cette dualité, mais c'est pas seulement ça, il y a une pluralité de gens. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces jeux de rôle, mais qui sont assez sincères parce que tout le monde finit par être émotionnellement impliqué ?
La garantie pour le négociateur qui est en front, donc celui qui va être face, ou plutôt au téléphone, face à l'individu, va avoir à mesurer grandement la manière dont il va communiquer. Donc, il va devoir surveiller son rythme d'élocution, la tonalité qu'il utilise, la manière de passer, d'enrober éventuellement une réponse qui n'est pas tellement favorable à la demande du preneur d'otage. Et donc, du coup, il y a la nécessité que d'autres, à côté, en backup, puissent travailler sur le fond. qu'est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on le dit. Parfois, on a des impulsions à répondre. Elles sont souvent très légitimes et judicieuses. Et puis parfois, on mesure pas, en fait, parce que nous-mêmes sommes un peu en stress, bien évidemment, on mesure pas, en fait, toutes les implications qu'il peut y avoir. Donc, nous avons, par exemple, le psychologue qui est présent systématiquement sur les prises d'otages et qui va, justement, nous apporter, quelque part, de temps en temps, un petit point d'arrêt, en fait, pour ne pas aller plus loin dans une discussion, par exemple, parce qu'il peut y avoir des conséquences.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Premier épisode ce matin d'une série sur la négociation et nous parlons des prises d'otages. Merci encore Christophe Coppen, ex-commandant du RAID, d'être avec nous ce matin pour en discuter, ainsi qu'Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste spécialiste de la police. Alors je voudrais évoquer maintenant une nouvelle situation de prise d'otage où vous avez été extrêmement actif, vous étiez la voix, le négociateur, Christophe Coppen. Il s'agit de l'évasion de la prison de Fresnes. Il y a eu un hélico qui est arrivé, un hélicoptère, où je crois que c'était son propre frère qui était en train de conduire. L'évasion de Christophe Kider, qui était condamné à de nombreuses années en prison pour braquage. Cette évasion, elle va mal se passer. Je préférerais que vous racontiez. Donc, je vous écoute, Christophe Coppen. C'était en 2001 à la prison de Fresnes.
Oui, un hélicoptère est pris en otage, une pilote donc est pris en otage, elle pense faire un baptême de l'air et en réalité trois individus montent à bord, dont le frère donc de Christophe Kider. Il lui intime l'ordre de partir au-dessus de la maison d'arrêt, elle met son transpondeur sur code sous contrainte, on est averti immédiatement que c'est donc une prise d'otage qui a lieu. On sait ce que c'est une hélivasion. C'est-à-dire une tentative d'évasion par hélicoptère. Hein. L'hélicoptère se met en vol stationnaire au-dessus d'un toit, les malfaiteurs grimpent sur le toit, ils essayent d'attraper une échelle de coupé, c'est une échelle spéléo, mais seulement il y a des filins anti-évasion et donc ils peuvent pas partir. On a eu sur cette affaire, alors outre la très grande dangerosité de Christophe Kider et de son complice Mounir Benbouabdella, c'est le fait que, étant donné qu'ils n'ont pas pu partir avec l'hélicoptère, les complices ont envoyé en désespoir de cause un sac avec à l'intérieur Kalachnikov, chargeur, pistolet automatique, gilet pare-balles.
Depuis l'hélicoptère.
Entre-temps, il y a eu un tir entre l'hélicoptère et un mirador avec un gardien à l'intérieur du mirador qui s'est fait arroser copieusement de Kalachnikov et donc qui a été très lourdement blessé. Dans la cour de promenade d'où venaient les deux malfaiteurs, il y avait 300 détenus qui étaient là en attente. C'était un beau dimanche de mai, un beau soleil. Et les 300 détenus deviennent livrés à eux-mêmes par la force des choses et donc constituent une menace très très importante. Donc on a un gardien qui est blessé très lourdement dans un mirador, 300 détenus qui sont livrés à eux-mêmes. On a Christophe Kider et Mounir qui sont lourdement armés avec Kalachnikov. D'ailleurs, le premier contact que l'on a avec eux, quand j'arrive à la prison, on est à peu près une trentaine sur le premier groupe d'intervention. Et là, on se fait tirer dessus. On est derrière les boucliers balistiques, ils nous tirent dessus et ça vient taper dans les barreaux. Il y a encore un barreau à la maison d'arrêt de Fresnes, quasiment à la sortie, où il y a donc l'impact de balle donc de la Kalachnikov, de la munition de Kalachnikov. Et donc, on constitue donc un PC de négociation. Toutes les autorités arrivent. Les autorités, il faut bien comprendre que ça part d'un très bon sentiment, elles veulent savoir ce qui se passe, hein. C'est directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, du garde des Sceaux, c'est directeur régional de la pénitentiaire, le général des pompiers, etc. Vous imaginez un petit peu tout ce monde-là. Et ce monde-là, en fait, procureur de la République, préfet, bien évidemment, en plus, veut savoir ce qui se passe au niveau de la négociation. Donc ils sont là, et c'est comme si vous aviez, sur toute situation particulièrement stressante que vous auriez à connaître, des autorités qui sont autour de vous et qui jugent d'une certaine manière en fait ce que vous êtes en train de dire, avec justement cette méconnaissance de ce que sont nos techniques. Et donc parfois, sans qu'ils s'en rendent compte, mais on voit des yeux qui paraissent surpris. Pourquoi est-ce que le négociateur parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il va sur tel sujet, etc.? Pourquoi est-ce qu'il ne rebondit pas sur telle autre chose? C'est ce que j'aurais fait peut-être en tant qu'autorité. Voilà, donc c'est un élément déstabilisateur. Ensuite, on a tous les les médias qui sont présents et qui essayent de voler des images, mais c'est normal, hein, c'est leur rôle en fait de communiquer et d'informer. Et donc, là encore, une très grande difficulté. On avait également toutes les familles des gardiens, les familles des deux preneurs d'otages qui étaient à gérer également. On a eu une deuxième tentative d'évasion d'opportunité des gardiens, de gardiens qui étaient sous un lit en première division et qui ont été découverts par des détenus. Voilà, et donc qui ont été pris en otage. Et donc on nous a averti qu'il y avait une deuxième prise d'otage à traiter. Il y a eu 60 DPS, des détenus particulièrement surveillés qui ont essayé de s'échapper par les toits, etc. Enfin bon, et des incendies. Et des incendies également, puisque certains détenus ont provoqué des incendies, histoire de créer du chaos sur le chaos. Bien. Autant vous dire que quand on vous laisse la main, en tant que négociateur, c'est parce que d'abord, au niveau de l'intervention, on a été capable, en fait, de positionner très correctement, en fait, le dispositif qui va pouvoir être le plan B, si jamais la négociation échoue. C'est-à-dire pouvoir intervenir en force et pouvoir donc résoudre l'ensemble de ces problèmes. C'est un énorme travail, en fait, de segmentation de la difficulté, d'une part. Mais on vous laisse faire parce que on voit que vous êtes organisé.
Qui ça, on, vous voulez dire ?
Les autorités voient que vous êtes organisé. Si les autorités ne voient pas, en fait, que ça fonctionne au niveau de la négociation, eh bien, c'est très légitime. Elles vont chercher à prendre la main pour pouvoir, donc, quelque part, essayer d'orienter la stratégie dans le sens qui leur paraît le plus pertinent. Donc, on m'a laissé négocier. Et pendant 20 heures, donc, j'ai été sur une logique qui était assez simple à partir du moment où on a deux individus lourdement armés. Ils ont un passé qui est différent, ils ont un présent qui est commun, mais ils ont un futur qui sera différent également. Et donc, j'ai travaillé sur comment casser, en quelque sorte, la cohésion des deux individus.
Et quelle a été l'issue ?
Qui était très lourdement condamnée, hein, bien évidemment. Ouais. Christophe Kieder avait 30 ans de prison à faire, 7 ans incompressibles à cause de cette tentative d'évasion. Mounir avait 18 ans de prison à faire, donc c'était beaucoup plus...
Ils ont rajouté, évidemment, des années après cette
tentative d'évasion. Donc, au bout de 20 heures, en fait, j'arrive à récupérer tous les otages. Et... faire en sorte que Mounir se rende. Et donc, il ne reste que Christophe Kieder, qui est verrouillé, en fait. C'est un garçon intelligent, hein, il faut bien le comprendre, et un garçon déterminé. Et il a décidé de mourir les armes à la main. Il voulait rentrer au Panthéon des criminels. Il ne pouvait pas imaginer, au fond, de passer 30 ans, c'est-à-dire de mourir à petit feu, comme ça, dans une prison, ballotté de gauche et de droite, en tant que détenu, très largement, surveillé. Et donc, dans cette logique, aller au bout de son acte et mourir les armes à la main, eh bien, au départ, on le conforte là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 20 heures de discussion ininterrompue avec lui, hein, c'est ça qu'il faut voir, bien sûr, il se crée une relation. Une relation un peu de confiance, même si c'est extrêmement, on est extrêmement prudent et extrêmement stratège également dans notre manière de faire. Mais il y a des moments de vérité, en quelque sorte, qui sont presque des confessions qui se passent. Et donc, il raconte son histoire, il raconte les détails. Et ces choses-là, en fait, ce sont ces choses-là qui créent du lien. Et au bout de 20 heures, donc, il est tout seul. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai terminé mon job. Les otages sont sauvés, tous les otages sont sauvés. Et donc, c'est Mounir s'est rendu. Et donc, c'est le groupe d'assaut qui doit y aller. Mais tout d'un coup, je réalise une chose. Que va retenir l'histoire ? L'histoire avec un grand H. L'histoire retiendra, quand tu n'as plus d'otages, le raid te tue. Et là, à ce moment-là, je me suis adressé aux autorités en leur disant « Écoutez, vous êtes sûr qu'on donne l'assaut à partir de maintenant ?» Parce que justement, quelque part, l'atteinte à la réputation va être terrible. On a discuté ensemble avec le chef du raid, qui était Jean-Gustave Paulmier, avec Christophe Barrache, le psychologue, Laurent Combalbert, qui était mon autre négociateur à ce moment-là. Et on s'est dit, non, c'est une solution qui est vraiment d'ultime recours, en quelque sorte. L'ultima ratio pour nous. Et les autorités ont accepté que l'on poursuive la négociation, sauf qu'on ne savait pas pour combien de temps. Sauf que le groupe d'assaut était déjà prêt. Les les visières balistiques étaient baissées, les chiens d'assaut étaient prêts à monter à l'assaut, les armes étaient conditionnées pour donc faire le plus gros feu possible en fait sur sa position. Et donc ça a duré 4 heures supplémentaires. 4 heures au bout desquelles, par ce que l'on appelle un principe de saturation émotionnelle, c'est-à-dire une reprise en fait de tout ce que l'on avait vécu ensemble, oui. Et bien à ce moment-là il craque et il dit ok, tu viens me chercher.
Christophe Kider, donc ouais. Il vous tutoie à ce moment-là.
Ah oui, on se tutoie dès le départ.
De le chercher, il arrête tout, il ne va pas mourir. Dans cette tentative d'évasion qui aurait pu très mal finir pour lui, vous venez de le dire.
Oui, on redoute toujours un suicide by cop, c'est-à-dire le fait qu'il tue un policier pour se faire abattre. C'était une éventualité. Mais j'avais presque une garantie, en fait, que son intention a été sincère. C'est-à-dire que réellement, il voulait se rendre, il en avait assez, il comprenait que c'était l'impasse totale pour lui. Et il n'avait pas eu le courage, au fond, de se suicider. Donc, l'instinct de vie, en fait, était toujours présent. Et donc, j'y suis allé avec un collègue, le chef opérationnel, et on a été le chercher à tous les deux. Et en effet, il s'est rendu au bout de 24 heures. Voilà, 24 heures où on s'était dit dès le départ, quand on est arrivé sur place, la négociation, peu de chances que ça réussisse.
Ah oui.
Très lourdement armé, gros passé criminel.
Donc, etc. Magnifique succès pour vous. Ouais. Et puis, on sent plein d'affect dans ce récit. Christophe Coppen du RAID parle avec presque une admiration, en tout cas un respect de Christophe Kider. J'entends dans votre récit un lien. Il y a quelque chose que vous avez profondément respecté.
Carl Gustav Jung disait on passe la moitié de sa vie à essayer d'escalader une échelle et puis l'autre moitié à se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon mur. Et ben, je pense que ça doit le caractériser, cet homme.
Et puis, Hélène Leyer.
C'est caractéristique de la police. C'est-à-dire que dans ces situations-là, ça ne peut pas se faire sans ce que, en psychanalyse, on appelle le transfert, hein, qui est beaucoup plus large que la situation analytique. Mais c'est que nécessairement, il se crée une relation. C'est pour ça que ça ne peut pas être compatible avec des petites manigances, avec des petites entourloupes. C'est que chacun, là, il va avec sa vérité. Aussi bien le négociateur, effectivement, on entend très bien quand vous racontez que vous y êtes impliqué comme sujet, avec ce que vous sentez de la situation, avec ce que vous pouvez dire à la première personne. Il y a une véritable énonciation. Et ce qu'il s'agit de produire, effectivement, chez celui qui est en crise, eh bien, c'est une même relâche et une même implication dans ce qu'il dit. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, il faut pouvoir l'entendre comme un sujet qui a son histoire et qui a donc une légitimité. C'est ça, la spécificité de la police. Moi, je me souviens d'un élève, quand j'enseignais en lycée, qui m'avait dit... Mon inspecteur, c'est le meilleur des inspecteurs. Là, ça s'est mal passé, mais c'était pas lui. Tandis que quand mon inspecteur est là, tout va très bien. Vous voyez, il avait son inspecteur. C'est un petit délinquant de banlieue. Il avait son inspecteur avec lequel il y avait un lien. Et quand c'était lui, je sais pas de bêtises, quand c'était un autre, ça n'allait plus. Donc là, je prends volontairement un exemple tout à fait de petite délinquance pour le parallèle avec un grand délinquant. Mais au fond, la logique, elle est la même. Et alors là, on voit bien... Pardon.
Non, je voulais évoquer avec vous les cas où ça ne marche pas bien.
Voilà.
Et je crois qu'il y a un cas qui s'appelle, on dira pourquoi, c'est les personnages érostratiques. Alors si j'ai bien compris, ça vient d'Érostrate, qui était incendiaire du temple d'Artémis, qui était une des 7 merveilles de la Grèce, en 356 avant Jésus-Christ à Éphèse. Et il a fait cela pour la notoriété. Érostrate, il a incendié ce temple. Quand il y a une envie de notoriété, un côté jusqu'au bout...
de Nanterre.
Ouais. Alors comment on fait
Richard Durne.
Comment on fait là? Moi, je dirais même, peut-être, on peut caractériser 3 types de situations critiques, dans lesquelles le RAID peut être amené à intervenir. Il y a effectivement, je dirais pas érostratique, mais enfin ce qui relève de l'usage de la terreur, c'est-à-dire de gens qui sont prêts, que ce soit pour la célébrité ou par adhésion,
par assumée, désirée.
Ou bien par terrorisme, par usage de la terreur idéologique, mais ça revient au même, parce qu'ils ne tiennent plus à leur vie, volontairement, volontaire et assumée. Quand quelqu'un ne tient plus à rien, on ne peut pas négocier, puisque négocier, ça suppose que chaque partie accepte de perdre quelque chose et de gagner quelque chose.
Oui. Voilà.
Il faut débrouiller pour qu'il y ait de la perte des deux côtés et du gain des deux côtés. C'est que l'autorité publique n'est pas toujours très contente quand il y a des négociateurs, parce que quoi, ils vont perdre. Comme Olof Palme, il y a, non, on ne peut pas perdre.
Comme Olof Palme, vous voulez dire, voilà, le Premier ministre suédois.
Palme, oui, là.
Qu'on a évoqué.
On ne peut pas perdre. Alors non, c'est sûr que quand on négocie, il faut accepter qu'on va perdre quelque chose, mais qu'on va gagner aussi quelque chose. Quand quelqu'un n'a rien à perdre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne tient plus à la vie, on ne voit pas comment on peut négocier. Il n'y a plus rien dans la balance.
Alors j'aimerais qu'on creuse ce point.
Oui, et alors, ensuite, il y a deux autres cas. Je dirais ceux qui ont perdu les pédales. Enfin, je veux dire
des psychopathologies.
Des psychopathologies, des psychotiques aussi, des forcenés. Pas forcément toujours des psychotiques, mais enfin, voilà. L'homme avec sa petite fille qui dit non, je la lâcherai pas. Et là, qui se retrouve au centre d'un fait divers par une sorte d'engrenage duquel il n'est pas maître, à la différence de l'érostratisme ou du terroriste. Et puis, il y a la troisième situation dont vous venez de parler, qui est un grand délinquant, un criminel. C'est-à-dire que lui, alors, il a tout à négocier. Et il veut même vous entraîner dans ce que j'appelais le pacte faustien, la négociation à deux, du deal, quoi. On va dealer. Et là, c'est très difficile aussi pour le négociateur, parce qu'il doit faire intervenir le tiers et penser que, quelle que soit sa demande, au fond, il tient à quelque chose. Et puis, si on a enlevé tout ce qu'il peut perdre, bah, il tient quand même à la vie. Ça, il ne veut pas la perdre. Et là, il y a moyen quand même de négocier avec lui. On ne peut pas lui promettre qu'il ira vivre tranquillement où il veut, mais au moins qu'il sera à l'abri. Parce qu'il faut bien voir que quand on se trouve dans une situation de tension telle que celle-ci, on ne peut pas rester dans cette tension, sauf le terroriste ou l'érostrata, il s'en fout.
Il y a des cas, Christophe Coppen, érostratisme, avons-nous dit, j'avoue avoir découvert ce terme, je trouve ça très intéressant, ou terrorisme, où en fait ce n'est pas possible de négocier, parce qu'il n'y a pas de désir de vivre si on n'a pas accompli ce qu'on avait décidé d'accomplir, un meurtre, éventuellement un suicide, ce n'est pas possible, il n'y a rien à négocier. Alors je sais bien, dans l'affaire Kider, vous venez de le dire, à un moment, on a peur du suicide, toujours dans les prises d'otages, quand la négo avance, mais est-ce qu'il y a des cas, vous avez rattrapé le coup, si j'ose dire, vous avez redonné envie de vivre, notamment à Christophe Kider, ça s'est bien terminé. Mais est-ce que parfois, vous savez, vous sentez que c'est impossible ?
On a une lecture de la menace qui est chirurgicale, en réalité. Parce que c'est elle qui va nous dire le niveau de dangerosité. Mmh. On a des menaces qui sont réactives. Si vous donnez l'assaut, je tue l'otage. Donc ça veut dire que l'individu a peur. Nous comprenons que l'individu a peur, et là, à ce moment-là, tant qu'on ne donne pas l'assaut, tant qu'on ne le met pas en péril de quelque manière que ce soit, eh bien, à ce moment-là, il n'a pas de raison. Et là, c'est très positif, c'est très favorable, en fait,
ça,
à une résolution.
Positif. On peut
à une
café,
résolution
voilà.
Favorable. Voilà, positif. Ensuite, il y a des menaces qui sont proactives. Et les menaces proactives, c'est si tu ne donnes pas la voiture, je tue l'otage. Si vous n'ouvrez pas les portes de la prison, je tue l'otage. Si la police ne laisse pas la voiture à Stockholm partir avec un des otages, on tue les autres, etc. Donc ce sont des menaces proactives qui sont extrêmement dangereuses,
c'est dangereux.
Et notamment quand l'individu met une limite de temps, c'est-à-dire qu'il se contraint lui-même en quelque sorte à devoir passer à l'acte, c'est l'ultimatum, ce qu'on appelle l'ultimatum. Si dans tant de temps je n'ai pas ça, à ce moment-là, je tue l'otage. C'est une grande caractéristique, d'ailleurs, de ce que sont les individus psychotiques paranoïaques. Le paranoïaque aime, justement, mettre des ultimatums, c'est-à-dire montrer sa puissance. Et puis ensuite, on a des menaces inconditionnelles. La menace inconditionnelle, l'individu a pris un otage, et en fait, il s'en moque de ce qui va se passer avec la police, il s'en moque des négociations. Ce qu'il veut, de toute façon, c'est régler son compte. Voilà. Il y avait eu à Cergy.
C'est-à-dire régler son compte.
Il y avait eu à Cergy une prise d'otage dans une banque. Et je me souviens plus forcément le nom du malfaiteur, mais il avait déguisé un vol à main armée, en fait, pour pouvoir régler ses comptes avec le directeur de l'agence et le tuer. Et il l'avait tué. OK? Et donc.
Donc là, on peut pas négocier.
Et donc, en fait, en réalité, l'objectif, c'est pas d'obtenir quoi que ce soit, c'est simplement de répondre, donc, à cet acte d'impulsion et de vengeance. Et le dernier paramètre qui est pour nous le plus énigmatique, c'est la menace cachée. La menace cachée, c'est l'individu qui dit « Ok, tu veux pas laisser, tu veux pas nous donner ? Ok, ok, tu vas voir. » Voilà. Et là, à ce moment-là, il nous faut avoir très très bien lu justement les paramètres de profil de personnalité ou d'antériorité, de passage à l'acte précédent, etc. Donc, pour pouvoir comprendre s'il y a de la crédibilité ou non. Donc, quatre grandes menaces qui, elles, nous donnent quelque part un petit peu le niveau de dangerosité.
Et puis la cinquième, c'est le terrorisme, non ? Est-ce qu'on peut négocier ? Est-ce qu'on imagine qu'on peut négocier avec Mohamed Merah quand il est... Quand on déboule à son domicile le 21 mars 2012, pour 30 heures de négociation. Donc oui, il y a eu de la négociation, mais en fait, il monte à l'assaut, comme on dit.
Et en fait, c'est de la menace inconditionnelle. C'est
ça ne marche pas.
Non, ça ne marchera pas.
Et au Bataclan ?
Et là, au Bataclan, les collègues ont cherché à négocier aussi, mais la priorité était à l'intervention devant la détermination qu'ils avaient. Donc là encore, il faut bien comprendre que même si on a l'impression que l'assaut est donné systématiquement, en réalité, on passe toujours par une tentative, en fait, de négociation avant, ne serait-ce que pour récupérer des informations qui sont utiles.
Oui.
Les Américains, eux, sont vraiment avec deux hiérarchies différentes, et donc, voilà, deux stratégies qui sont radicalement différentes, et au milieu, il y a ce qu'on appelle un on-scene commander, c'est un peu un préfet, qui va donner le mandat soit à la négociation, soit à l'intervention. Donc, les choses sont définies très différemment, mais nous autres, eh bien, on est sous la même autorité d'un chef du qui est un général, et c'est lui, en fait, qui laisse les circonstances, quelque part, guider la solution.
Hélène Leuillet.
Oui, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'un sujet est toujours divisé, c'est-à-dire que, voilà, quand on a affaire à quelqu'un qui se retrouve dans un preneur d'otages, on ne sait jamais aussi jusqu'à quel point sa détermination est entière. Même, effectivement, avec Merah, évidemment, rétrospectivement, on se dit, de toute façon, il était complètement fanatisé.
Mais on négocie 30 heures, on essaye quand même.
Voilà, on essaye parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas un moment où il y a une faille qui va s'ouvrir. Voilà, donc, à partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui parle, il ne parlait pas beaucoup, quand même, parce qu'il disait, on va vous tuer, je vais vous tuer, il a tout de suite... De toute façon, on fait entendre dans ces 30 heures qu'il allait tuer. Enfin, que ce qu'il voulait, c'était... Il y avait quelque chose d'érostratique aussi chez lui.
D'érostratique, c'est un...
De se montrer comme ça, défiant, défiant les forces de police. Ouais. Mais enfin, c'est sûr que dans l'optique de la pacification des mœurs, comme je disais tout à l'heure en commençant, il y a le pari. Le pari qu'on a affaire à un être parlant, on va bien voir... Et effectivement, si on arrive à le faire revenir de cette bascule, c'est très rare avec les terroristes, parce qu'ils ont déjà basculé, en fait, dans le registre de la mort, peut-être quelque chose se passe. Mais on voit bien qu'en toute façon, tout se joue sur cette espèce de dialectique entre le lien, relier, faire relation, et puis séparer.
Oui.
Que dans une négociation, enfin, chacun retrouve sa place. Tandis que la situation de crise fait que toutes les places sont brouillées. On ne sait plus qui est qui, où est qui, etc. Tandis que dans le fait de faire relation, y compris donc avec le preneur d'otages, que les otages font relation eux-mêmes avec leur preneur d'otages. Parce qu'après tout, Olof Palme, il avait raison de dire, non mais attendez, de dire à Christine, mais vous débloquez complètement, vous allez contre votre intérêt, après tout. Enfin, je veux dire, il avait raison sur le plan psychique, que d'aller contre son intérêt, ça ne va pas. Mais néanmoins, dans cette dialectique relation et puis séparation, que chacun retrouve sa place.
Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du building Comtax, où nous assistons à une prise d'otage complètement folle, où le négociateur tente de raisonner le preneur d'otage.
T'as vu ça ? On passe à la télé, putain !
Pitié !
Ta gueule ! Perds pas de temps, les vautours. Oui, allô ?
Écoutez, on a fait ce que vous avez exigé.
T'as intérêt, mec ?
Les médias sont là. Mais donnez-nous un otage, maintenant.
C'est une prise d'otage, alors le flic, tu vas pas me la faire à l'enfer. Fais ce que je dis, il y aura pas de galère. J'ai les nerfs et je veux le direct. Comme ça, il y aura pas de méprise sur mon geste. Tu veux un otage ? Ok, c'est bon, toi la secrétaire, tu peux partir.
Oh, merci.
Après tout, t'as rien à voir là-dedans. Hé, hey, le négociateur, t'as entendu ? Elle va sortir.
Ok, c'est bien, on l'attend.
Et maintenant, écoute-moi bien et fais ce que je dis. Fous-moi sur le parleur, je veux que les télés en profitent, je veux qu'ils filment. Attention ici, j'ai un écran et pas d'arnaque. Rappelle-toi, j'ai encore deux otages, ouais.
Ok, c'est du calme, du calme.
Viens, je t'emmène dans ma douleur, prends ta caméra. Va y avoir du spectacle en direct live, j'ai rien à perdre car faut dérapage. C'est une prise d'otage.
Viens, je t'emmène dans ma douleur, prends ta caméra. Va y avoir du spectacle en direct live, j'ai rien à perdre, car faut dérapage.
Mesdames et messieurs, nous assistons ici à quelque chose d'assez inhabituel, puisque le preneur d'otage a exigé la diffusion d'un de ses communiqués, et d'après nos sources, celui-ci nous regarde en ce moment même.
Pour commencer, il faut savoir que je suis pas un monstre, et à la base, je suis comme tout le monde, j'étais désespéré, licencié donc au chômage, et pour la garde de ma fille, j'aurais vendu mon âme. Le juge a dit que j'étais pas fiable, avec un avis d'expulsion sur le dos et des dettes.
Mais vous écoutez Prise d'otage, une chanson de 2007 du rappeur français Faf la Rage. Merci beaucoup Hélène Leuillet et Christophe Copé pour toutes vos analyses des situations de crise que sont les prises d'otages. J'ai trouvé ça passionnant. Les références de vos travaux à tous deux et écrits sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au retour de l'histoire. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les humains ont-ils besoin de l'histoire ? Lorsque survient en particulier un acte humain qui nous sidère, un coup d'État, une guerre, une prise de pouvoir, à l'échelle nationale ou internationale, voire mondiale, nous sommes tellement sidérés que nous avons besoin de comprendre et nous avons besoin de ce que nous appelons l'histoire. Nous avons besoin de situer ces actes dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? La première chose, c'est bien entendu le désir d'explication, le désir de situer cet acte qui nous sidère dans une chaîne causale, une chaîne qui le rattache à des causes dans le passé. S'il y a eu la Révolution française, ça peut être en particulier pour des raisons économiques, pour des raisons d'une crise sur le prix du blé en France à la fin du XVIIIe siècle. Cela peut être pour une des raisons politiques. Nous avons besoin d'explications. Le premier rôle de l'histoire, c'est d'établir un certain nombre de faits dont on pense qu'ils ont produit causalement l'événement qui nous sidère un petit peu comme, ou même tout à fait comme en un certain sens, dans les sciences de la nature, lorsqu'un événement nous sidère aussi, lorsque la foudre tombe sur un arbre, nous avons besoin d'une explication causale, nous avons besoin de comprendre, grâce à la science, qui est en effet indispensable dans l'histoire humaine, nous avons besoin de comprendre les mécanismes qui produisent les événements qui affectent nos vies. Mais dans les événements historiques à proprement parler, c'est-à-dire dans les événements où interviennent les humains d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui semble les singulariser, il y a une dimension supplémentaire. C'est que non seulement il y a des causes objectives à ce qui s'est passé, mais il y a aussi la représentation par les humains de leur propre action et même de leur propre action dans le temps. On appelle histoire, en effet, non seulement l'explication causale de tel ou tel événement humain et dans une série temporelle, mais aussi la représentation que les humains se font de leur place dans le temps et dans ces séries causales ou dans ces événements. Ainsi, si un pays en envahit un autre, si une guerre se déclare, c'est à la fois un fait objectif, qui peut avoir des causes objectives, mais parmi ces causes, il y a les représentations que les humains se font eux-mêmes de ces causes, que les humains se font de leur place dans le temps, dans l'histoire, et ces représentations peuvent nous paraître alors différentes des faits objectifs. Il y a une explication, une tendance historique qu'on pourrait appeler matérielle, objective, et puis une tendance qu'on pourrait appeler représentationnelle, politique, et elles se sont souvent opposées. Mais l'histoire, en réalité, c'est de toute façon une histoire qui intègre aussi les représentations des humains comme des faits. Nous avons besoin de comprendre quelle signification les humains ont donné à leurs actes, et si possible, de le comprendre d'une manière aussi objective qu'un fait qui nous paraît naturel, comme la foudre qui tombe sur un arbre. Nous avons besoin de comprendre le sens que les humains donnent à leur vie dans le temps pour comprendre leurs actes. Ce sont là des représentations qui entrent en jeu de telle sorte que le sentiment historique des humains est lui-même un fait historique que l'histoire doit nous permettre de comprendre. Nous avons besoin de l'histoire pour nous orienter dans le monde, dans le temps, à travers les représentations que nous nous faisons de nous-mêmes, nous-mêmes chaque individu, car notre identité dépend peut-être de ce sentiment de l'histoire, nous-mêmes à l'échelle globale, notre place dans l'histoire du monde, mais aussi nous-mêmes, collectivement et parfois conflictuellement, les représentations que les humains se font de l'histoire doivent elles-mêmes être un objet de connaissances factuelles, historiques, de compréhension objective et mutuelle pour éviter la guerre.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.